Le journal de l'économie avec François Geffrier.
6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. L'État s'invite chez Atos et va acquérir certaines de ses activités les plus sensibles. La surprise Moody's qui n'a pas dégradé la note souveraine de la France. Et puis le salon automobile de Pékin en ce moment où les constructeurs auto chinois font une démonstration de force à la fois commerciale mais aussi technologique. Le mot de nationalisation est évité, mais on y pense très fort. L'État va acheter les activités stratégiques d'Atos. Éric Mauban, la descente aux enfers de l'ex-pépite française de la tech, force le gouvernement à agir pour préserver les intérêts français.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé hier envoyer une lettre d'intention à Atos pour que l'État récupère, avec l'aide d'autres partenaires français, les activités souveraines de la société. Ces activités sont hautement stratégiques pour le pays. Pas question de les céder à des intérêts étrangers. Il s'agit par exemple dans la défense de supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire ou des systèmes informatiques perfectionnés servant aux armées françaises pour leur communication. Selon Bercy, ces activités représentent moins de 10% du chiffre d'affaires d'Atos, soit environ 900 millions d'euros et concernent environ 4000 salariés travaillant en grande majorité en France. Il n'est certes pas question de nationalisation, mais de rapprocher ces activités de grands industriels français de la défense et de l'aéronautique capable de préserver les intérêts du pays.
Éric Mauban en direct à la veille du week-end, un peu à la surprise générale, les agences de notation Fitch et Moody's n'ont pas modifié d'un iota la note qu'elles attribuent à la dette française. Alors, au vu de la dérive budgétaire du pays et des difficultés à redresser les comptes publics, beaucoup d'investisseurs s'attendaient à beaucoup moins de clémence. Cette décision est-elle crédible ou répond-elle aussi à un impératif politique? Écoutez ce qu'en pense Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.
Il y a quand même des considérations politiques qui ont été mises en avant, puisque lorsqu'on regarde les raisons invoquées, notamment pour justifier le fait qu'il n'y ait pas de changement de la note, on a notamment parmi les raisons le fait que les Français aient beaucoup d'épargne, etc. Ce n'est pas des raisons qui sont vraiment valables sur du long terme. Le fait probablement qu'on a des élections européennes qui vont survenir prochainement, le fait que le gouvernement déjà discutait aussi d'éventuelles baisses des dépenses, donc peut-être que les agences de notation attendent aussi d'en savoir un peu plus. On sait qu'on aura des mesures annoncées d'ici le mois de juin, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans tous les cas, les agences de notation, elles n'en ont pas terminé avec la France. On a une autre agence de notation qui va statuer d'ici la fin du mois de mai. Et le deuxième point, c'est que très probablement, beaucoup d'agences de notation offrent finalement un peu un répit à la France avant éventuellement de voir s'il y a une réelle baisse des dépenses qui est mise en avant.
Voilà pour Christopher Dembick. On reviendra sur le sujet des agences de notation avec François Vidal à 7h10. Puis Raphaël Gallardo de Carmignac dans les voies de l'économie à 7h15. Les marchés financiers qui ne devraient en tout cas pas réagir particulièrement ce matin à ce statu quo de la note souveraine de la France. Le taux à 10 ans des obligations françaises est à 3,06%, un peu moins d'un demi-point d'écart avec l'Allemagne. À Tokyo, pas de cotation. Aujourd'hui, c'est férié, mais pour autant, le yen baisse encore à 160 yens. Pour 1 dollar. C'est le plus bas niveau du yen face au dollar depuis 34 ans. L'euro, de son côté, vaut 1,0731 et le baril de Brent, le pétrole, 87,50 $. On continue de parler de la bourse avec Total Energy qui envisage de faire coter son titre à Wall Street plutôt qu'à Paris. Le groupe français qui fête ses 100 ans cette année est la quatrième capitalisation boursière de la place parisienne, même si son siège restera bien en France. La perspective d'aller se coter principalement du côté de New York est du plus mauvais effet pour la place financière parisienne. Et alors, quelles sont les motivations de Total Energy? Les explications d'Emmanuel Autier, expert du secteur de l'énergie chez Bearing Point.
Le problème de la place parisienne, comme un certain nombre de places européennes, c'est qu'aujourd'hui, il existe des paniers d'actions qui sont des paniers d'actions qui sont des investissements socialement responsables, à l'intérieur desquels des entreprises comme Total ne peuvent pas se trouver du fait de la définition de ces paniers d'actions socialement responsables. Et donc, par nature, ça empêche un certain nombre d'investisseurs d'accéder au titre Total au travers de ces paniers d'actions. Et donc, ça génère une décote du titre Total qui n'aurait pas lieu si Total était sur un marché comme le marché américain, et une décote par rapport à ses grands concurrents, Exxon, Shell, BP. Et le fait qu'il y ait cette décote peut avoir une influence négative sur la capacité d'investissement de Total. Et on sait que Total, elle, veut investir fortement dans sa transformation.
Le retour du salon automobile de Pékin, première édition post-Covid. L'événement commencé la semaine dernière se tient jusqu'au 5 mai dans un espace d'exposition géant, 320 000 m². C'est une fois et demie la taille du mondial de l'Auto de Paris, pour vous donner une idée. La Chine est désormais non seulement premier marché mondial en achat de voitures chaque année, mais aussi premier producteur mondial de voitures et même depuis l'an dernier, premier exportateur mondial. Bonjour Sébastien Amichi.
Bonjour.
Vous êtes expert automobile au sein du cabinet de conseil Kernet. Comment la Chine a réussi si vite à monter en volume et en puissance sur l'automobile ces dernières années ?
Écoutez, le marché chinois, en fait, le premier facteur de sa croissance et de sa taille, c'est le nombre d'habitants. Et on a aujourd'hui 1,5 milliard d'habitants en Chine qui accèdent progressivement à la propriété et qui, du coup, nourrissent en fait ce 10% de croissance, voire même plus, en Chine, qui aujourd'hui est devenu le premier marché avec 30 millions de véhicules vendus et produits par an.
Qu'en est-il sur le plan technologique ? Est-ce que le Made in China pour les voitures rime aujourd'hui avec haute qualité ?
Oui, absolument. On s'est un peu laissé surprendre de ce point de vue-là, et les concurrents occidentaux en particulier, mais les constructeurs chinois aujourd'hui proposent des véhicules qui, en termes de qualité, de sécurité, de finition, sont équivalents, voire même supérieurs sur certains aspects aux véhicules occidentaux.
Mais sur quoi précisément les constructeurs automobiles chinois sont-ils en avance ?
Il y a au moins deux aspects sur lesquels les constructeurs chinois ont pris de l'avance. Le premier, et c'est lié aux caractéristiques propres du marché chinois, c'est l'électrique, l'électrification, puisque le gouvernement a forcé et incité les constructeurs à basculer plus tôt en Chine. Et donc aujourd'hui, on a une offre de moteurs, de batteries, de systèmes de propulsion électrique qui est très avancée. D'autant plus qu'ils maîtrisent toute la chaîne, y compris les matériaux, à commencer par le lithium. Le deuxième aspect sur lequel les Chinois aujourd'hui sont en train de prendre l'avantage, c'est toute l'architecture électrique et électronique, sur lesquelles, dans ce qu'on appelle l'ère du SDV, du Software Defined Vehicle, les constructeurs chinois proposent des solutions qui sont vraiment remarquables. On a des constructeurs spécifiques, comme BYD, NIO ou Li Auto. Et puis, on a de nouveaux acteurs qui viennent notamment des smartphones. Je pense à Huawei, à Xiaomi, qui se lancent dans l'automobile en Chine et qui viennent vraiment faire basculer les véhicules dans l'univers de l'électronique.
Et c'est toute l'organisation industrielle aussi qui est forte.
Bien sûr, la supply chain chinoise, le savoir-faire, la main-d'œuvre aujourd'hui qui reste à bas coût, même si elle a beaucoup augmenté. Un ouvrier chinois aujourd'hui gagne moins de 900 euros par mois. Donc la base de production reste évidemment un gros avantage aussi pour les constructeurs chinois.
Merci Sébastien Michy, expert automobile chez Kernet. Le cuivre s'échange à près de 10 000 dollars la tonne sur les marchés mondiaux. Depuis le début de l'année, le cuivre a grimpé de 15%. La demande internationale est de plus en plus forte avec la transition numérique et énergétique. Ces prix records amènent une recrudescence des vols, Eric Cuoche.
Principale victime de ces larcins, le réseau télécom, affirme Cyril Luneau, directeur des relations collectivités locales chez Orange.
Sur 2023, on était à 1600 vols. En 2021, on était plutôt à 225 vols. Donc c'est une multiplication par 8. En moyenne, on est à 30 vols par semaine.
Et Orange craint que ce scénario se répète. En 2024, les voleurs sont surtout attirés par le prix du cuivre qui se négocie à 7000 euros la tonne sur le marché noir. Problème, à chaque câble coupé, c'est un nouveau casse-tête pour l'opérateur.
Ça peut prendre plusieurs semaines. On a des câbles qui doivent être acheminés, déposés, tirés dans les conduites. C'est un travail énorme. On peut avoir des villages qui sont coupés plusieurs semaines. C'est très compliqué à vivre.
Le préjudice s'élève à plusieurs millions d'euros par an. Autre cible, les centres de recyclage où on trouve de l'électroménager en nombre. Victimes de longue date, ils ont dû investir pour se protéger. François Excoffier, président de FEDEREC, Fédération du Recyclage.
On a mis des murs de 6 mètres, tout un système de vidéoprotection, d'alarme. Et puis, on a aussi mis du gardiennage physique, c'est à peu près 1 million d'euros par an.
Ces vols touchent principalement les Hauts-de-France ou encore l'Occitanie, des régions frontalières. Peu traçable, le cuivre passe facilement d'un pays à l'autre dans l'espace Schengen.
Eric Cuoche sur Radio Classique. Dans un instant, le journal de 7h, on va partir en...